L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en octobre, les prix rougissent. On t'offre encore 15 % de rabais sur nos Ram 1500 2024 et aussi 5 % sur nos nouveaux 2025. Aussi, 18 000 $ de rabais sur nos Grand Cherokee 4XE 2023 et 16 000 $ sur nos Dodge Hornet hybride branchable 2024. Pour finir, t'as aussi 10 % sur les Wrangler 4XE. En octobre, les prix rougissent chez... L'Étoile Dodge Chrysler.
Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le
vestiaire. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. Un lundi nuageux. Dominique Bolduc, bonjour.
Salut, Michel.
On peut-tu dire qu'on est dans le crunch du sport?
Oui.
Tu sais, séries de baseball, le hockey, ça commence.
Début de saison de hockey.
Le football, on est dedans. Basket, il y a une grosse partie à Montréal en fin de semaine. Faut pas l'oublier, le basket, là. Il y avait 21 000 personnes au Centre Bell.
Ça a encore été un succès.
Le CF de Montréal l'a échappé en fin de semaine. Il faut qu'il gagne la prochaine. Il y en reste une. On est carrément. Puis là, la course automobile, il y a une petite pause, mais ça va reprendre.
Ça va recommencer.
Puis les Saguenayens, c'est parti. Un beau week-end, les Sags. Les Marquis ont gagné ça vendredi. Oui. Les élites sont en feu.
Hey, 4 victoires en ligne.
C'est fun, ça. 4 victoires en ligne.
Là, ça sera pas facile, la prochaine game, par exemple.
Non, à Lévis.
Ils sont 10-0.
Ils ont pas perdu
encore. Ils n'ont pas perdu en 10 matchs cette année. C'est quand même assez surprenant.
Mais ce qui est gagné, est gagné. Là, ils ont 4 en ligne.
5 victoires, 4 défaites depuis le début de la saison.
Ça va bien.
Ça va bien.
Comme les Sags, ils en ont gagné deux. Vendredi, ça n'a pas été facile, ils ont gagné. Puis les Marquis, ben ça n'a pas été facile non plus, mais ils ont gagné aussi.
Oui.
Comment t'as aimé ça? Le retour à la description.
Ça fait du bien.
Ouais.
Ça fait du bien. Ah, oh, j'étais content.
Pour
on a eu un bon match en plus.
Pour l'avoir vécu, Dominique et moi, ben Dominique, il le fait encore, là. C'est tout qu'un thrill d'écrire une game de hockey.
Ah oui.
Quand j'étais à TQ, puis Dominique puis moi, on a un cheminement qui se ressemble. Quand j'avais 14, 15, 16 ans, là, j'avais plein de cartes de joueurs de hockey. Puis quand je me couchais le soir, là, j'avais mes cartes de joueurs de hockey. Dans le temps, Dominique, c'était pas compliqué. Il y avait 6 équipes.
Ben,
je te le dis, tu pourrais me questionner puis me passer l'examen. Là. Je connaissais les numéros, les noms des joueurs de toutes les équipes par cœur. Il y avait 6 équipes. Là. C'était facile. Puis là, je décrivais la game. Là, je fais Tim Horton à Bobby Bond. Là, c'était Toronto, évidemment. T'as reconnu le nom des joueurs. Et là, Del Vecchio pour Détroit. Il remet à Gordie Howe. Et oh, il trébuche. Puis là, je décrivais la game. Des fois, ma mère arrivait dans ma chambre. C'est que tu fais?
À qui tu parles?
À qui tu parles? Je me parlais de ça. Je décrivais des matchs de hockey dans mon lit. J'apprenais le nom des joueurs. Je tripais. Un jour, quelqu'un m'aurait dit, Michel, tu vas décrire une partie des Saguenay de Chicoutimi. Je l'aurais pas cru. Même chose pour toi.
Ah oui.
C'est un trip, c'est un thrill épouvantable parce que j'ai déjà été interviewé par des gens qui me disaient « Comment tu vis ça, une game de hockey, quand tu décris? » Ben moi, je pense sincèrement, puis corrige-moi si je me trompe, Dominique, parce que tu as fait plus de parties que moi à la radio, là. C'est comme si tu jouais, c'est comme si tu coachais. Quand la rondelle est mise au jeu, mise au centre de la glace au début de la partie, il faut que tu sois dans le game, comme on dit, autant que les joueurs.
Puis ça passe tellement vite.
Puis ça passe vite.
Ça passe tellement vite, là. Puis t'embarques, tu sais, je l'ai senti, puis je voulais justement me réécouter, parce que, bon, tu prends les devants 2-0, c'était 2-1, là, on a fait 3-4, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, plus tu montes dans les buts, et de la manière que c'est fait, plus l'intensité monte. Le but que j'ai dit lors du troisième, quatrième n'ont pas été le même que le cinquième, ni le même du sixième, et surtout les circonstances. Tu sais, à 4-1, les Marquis sont en désavantage numérique. Christian Ouellet, qui revient d'une opération au genou, est utilisé. Il y a un revirement, il déjoue le gardien des jambières, puis il tombe à genoux, puis il regarde quasiment au ciel. Tu le pousses, t'as pas le choix, parce que tu sens l'émotion du gars. Puis 30 secondes après, t'es encore en désavantage numérique. Puis Louis-Philippe Denis endort tout le monde, puis il met dans le haut du filet 6-1. T'as pas le choix de me dire, oh, il a bu! Non, tu le pousses!
Ah, tu le pousses!
L'émotion embarque, puis moi, de la manière que je sens l'émotion des gars, on dirait, qui vient à moi.
Ouais.
Donc, je décris tout simplement ce que je vois.
De parce qu'il joue sur la glace.
Ouais.
Y avait-tu l'ambiance pas mal à Laval?
Quand même. C'est pas sûr une belle foule.
C'est sûr qu'ils ont perdu, là.
Mais quand à 6-3, 6-4, 6-5, là,
l'émotion,
le monde y croyait, là.
Ouais, il croyait.
Puis les joueurs de Laval y croyaient également, là. Le trio Joannette Caron-Hamelin, là, Il n'a pas été le meilleur trio l'année passée pour rien. Là. Il va être encore le meilleur trio de la Ligue cette année.
Les jeux sont faits pour l'alignement du Canadien de Montréal. On a retranché des joueurs aujourd'hui.
Oui.
On aurait dit ça au début du camp. On aurait dit, oh boy, c'est toute qu'une surprise. Joshua Roy fait pas le club.
Ça, c'est une surprise.
Logan Mailloux, rappelle-toi au début, on disait, il va commencer.
Il va commencer.
Il commence pas. Puis Adam Engstrom, ça, c'est pas une
non,
surprise.
Non, c'est ça. Il a quand même bien fait, mais ouais. Il n'y a pas de place pour lui.
Mais Joshua Roy, Logan Mailloux retourné, ça, au début du camp, on n'aurait pas pensé ça. Ah, donc, Olivier Kapanen, Emil Heinemann. Heinemann, c'est une surprise, ça.
Heinemann et Kapanen, lorsqu'on les mettait ensemble, ils ont vraiment bien fait. Puis je suis content de les voir là. Heinemann, j'avais un peu lancé la serviette avant le début du camp d'entraînement. Il va falloir qu'il connaisse un gros camp. Il l'a fait. Kapanen, on dit qu'il pourrait brouiller les cartes. Bien là, il va commencer l'année à Montréal. Évidemment, ils vont voir de la glace. Ça, c'est sûr et certain, à cause des blessures et tout. Puis, tu sais, l'année n'est pas là. Fait que tu as une place qui s'ouvre sans problème.
Ouais.
À un moment donné, les places vont rétrécir. Mais ils ont leur chance. Début d'année canadien, là, on dit à ces joueurs-là, faites vos preuves. Si vous faites le travail, vous allez être dans l'alignement. Sinon, bien, il y en a un qui va prendre votre place.
Puis Alex Barry-Boulay qui fait l'équipe.
Sans surprise.
Là, je regardais l'alignement du Canadien, là. Oh, pas tellement fort que l'année passée.
Non, non.
Honnêtement, là, deuxième trio, là, Alex Newhook, c'est la deuxième ligne, là.
Ben, il aurait été deuxième ligne, anyway. C'est un jeune. Ben, c'est un jeune qui
il est
qui
pas gros.
Non, mais gars.
Il est pas gros.
J'ai aimé certaines choses qu'il a fait l'année passée. Une belle rapidité. T'as un choix de premier round de l'Avalanche.
Je comprends. Rien, troisième trio, pas fort.
Ben, ça va bouger.
Ben oui, ça va
Barry
bouger.
Marie Boulet va jouer ça à 3 avec Vorak, Anderson, Gallagher de temps en temps.
T'as-tu confiance, Anderson? Moi, c'est ça mon point d'interrogation. Anderson, il va-tu être meilleur que l'année passée? Je sais pas.
Ben, il peut pas être pire.
Ouais.
C'est une question de confiance, Anderson.
Ouais, ouais.
T'sais, s'il commence sa saison en marquant 3-4 buts, peut-être on a confiance.
Il va-tu
faire, si la santé
toi,
reste.
Il va-tu faire, c'est 3-4 buts.
Gallagher, ça va être quoi? C'est le point d'interrogation. Gallagher, à moitié de saison, il va avoir combien de buts? 3, 6, 10? Il y a des gros points d'interrogation, mais on est pogné avec ces joueurs à gros contrats, puis il faut faire avec. Tu sais, moi, si Anderson va chercher sa part de but de temps en temps, puis qu'il s'implique, parce que l'implication, il y était. Jusqu'à temps qu'à la fin de l'année, là, il avait tellement plus confiance en lui que l'implication n'y était plus.
Mais puis Gallagher, Dominique, pour y revenir, là, on chialera pas après le gars parce qu'il y a du chien, puis il va tout le temps vouloir, il a ralenti. Puis Newhook, dans mon livre à moi, Dom, c'est pas un deuxième trio. C'est un troisième tri. C'est dans mon livre à moi. Tu as le droit à ton opinion, là. Alors, tu sais, c'est sûr que la blessure de Patrick Laine a fait mal. Parce que Patrick Laine, on améliorait notre deuxième trio. Puis également, on avait un joueur de plus sur l'avantage numérique qui peut scorer avec un bon lancer. Ça, on l'a pas, là. Puis Caulfield, c'est drôle, hein. Je pense que Caulfield, il est atteint mentalement par la blessure de Laine. J'ai hâte de voir comment il va agir là, dans les deux, trois premières games.
Ben, moi, je trouve super sérieusement qu'on les a quasiment pas vus dans
l'entraînement.
Slavkovski, Suzuki et Caulfield, on les a pas vus. Il faudrait qu'ils se mettent à jouer là, dès mercredi.
Ouais.
Pas le choix. Il faut les voir.
Il commence contre Toronto. On a trois grosses games. Ce n'est pas des games faciles. Là.
Puis l'avantage numérique, là, 0-30.
On va en parler tantôt avec Tom Lapointe. 0-30. Non, rien qui marche.
Il n'y a pas eu d'amélioration, puis c'est pas drôle. Tu es capable de prédire ce qu'ils vont faire avant. Il va l'envoyer à gauche, elle va descendre au cercle. Il va le renvoyer à droite, elle va descendre au cercle, peut-être en dernier. Elle va revenir, puis il lance pas.
Dominique
c'est facile.
Dominique fait combien de... fait trois ans que je le dis dans le vestiaire.
C'est zéro l'avantage
lancé
numérique.
Lancé au but. Jekai, il a scoré un but. Il a lancé.
Il l'a lancé.
Il a juste lancé au but, puis à rentrer. Il est maudit. Il y a toujours, Dominique, surtout en avantage numérique, une passe de trop. Mais même dans le jeu, et je me rappelle pas, là, c'était-tu les Saguenayens? J'ai tellement écouté de game de hockey en fin de semaine, maintenant, je pense que c'était les Saguenayens, passe de trop. Tu t'en viens 2-1, le gardien, je regardais l'angle du gardien, il était déjà battu.
T'sais,
le gars
a
fait une pause, puis il a manqué la passe.
Tu te dois...
C'est bien beau de passer la rondelle.
Oui,
là, mais là,
oui passer la rondelle, mais il faut que tu fasses bouger le jeu. Mais la rondelle, il y a des places tranquillement. À gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, en haut, en... Ils savent, là. Ils sont capables de la suivre. Non, fallait bouger, puis bougez, vous aussi. Tu sais, là, tic-tac-toe, toc-toc-toc, boum! C'est comme ça que ça fonctionne, mais on dirait qu'on n'est pas capable à Montréal. Puis en défensive, ben, il n'y a pas vraiment de surprise. Matheson est là avec Goulet, Savard, J.K., Barron, Strouble, Hudson. ça va être le top 7 des défenseurs pour débuter la saison.
Et Jekka, il n'a rien prouvé dans le camp d'entraînement. Il doit avoir un bon début de saison. Là.
Il va être un 5-6.
Oui, puis il doit se tenir les fesses serrées. Là.
Ouais.
Oui, aller défendre les gars. Oui, brasser, mais intelligemment. Parce qu'il ne l'a pas fait en séries éliminatoires. Puis Hudson, j'ai hâte de voir. Le talent est là. C'est une pierre précieuse. Ouais. Il sait jouer au hockey. Mais là, c'est des alignements complets. Là. À partir de mercredi, là, Toronto, c'est Hudson. Pas Hudson, Auston Matthews.
C'est Matthews, c'est Tavares, c'est Nylander, c'est Marner, c'est Pacioretty. Oubliez Pacioretty, là, il est signé.
Il
là.
Est signé, ouais, 800 000. Là.
Mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
S'il va chercher 25 buts à 800 000, c'est une belle aubaine, là.
Ouais, crème des fins. Hey, 25 buts, tu penses, Pacioretty?
Non, mais tu sais, s'il est en santé, avec l'équipe qu'il a.
Ouais, OK.
Moi, s'il va chercher 15-20 buts à 800 000 de même, sans problème.
Il y a des gens qui voulaient que le Canadien arrête l'homme Jacob Beltier. Jacob Beltier, il...
S'il fait pas à Calgary,
on en a plein à Montréal, des 5
S'il ne fait pas à Calgary, pourquoi il ferait à Montréal?
Non, ça ne marche pas. Alors, il n'a pas été réclamé, ça va dans la Ligue américaine. Raphaël Lavoie a été réclamé, lui, par les Golden Knights de Vegas.
Mais oui.
Le gardien de but, Sam Reinhart, qui était à Buffalo, réclamé par les Ducks de Anaheim. Une nouvelle d'un gars de la région, Sylvain Rodrigue.
Ouais, non.
Il n'a pas été réclamé non plus.
Il n'a pas été réclamé.
Soumis au balotage par les Oilers. Il n'a pas encore touché à la Ligue nationale, Sylvain Rodrigue. Là. Il se fait tard.
Olivier.
Olivier, il se fait tard. On a quelqu'un
qui se fait tard. Ouais.
Dans le vestiaire, bonjour.
Oui, salut.
Bonjour.
Hey, sur le power play, là. Tu sais, Ovechkin, là, on le sait comment ça qu'il va faire. Il en score 50 par année. Les gars sont peut-être pas capables de s'ajuster. Parce que c'est à eux autres de s'ajuster.
Je comprends pas, là. Ovechkin, là, il réussit à se démarquer. Il réussit. Ouais.
Tout le monde sait comment ils vont faire. Ovechkin est à la même place, puis Backstrom était là. T'sais, ils sont ajustés.
Oui, mais ils réussissent à se découvrir, Ovechkin.
Mais sauf que Caulfield, il a changé, on dirait, sa routine. Puis maintenant, quand on le voit en avantage numérique, il est tout le temps en arrière du joueur pour ne pas recevoir de passe. Ça, je l'ai vu souvent l'année passée.
Il fait toujours la même affaire.
Au lieu d'être placé comme Ovechkin à la même place, toujours bien placé, Caulfield se déplace toujours pour, on dirait, pas recevoir de passe pour y aller d'un tir ou sur réception. Je ne sais pas s'il a peur de tirer ou tout, mais l'année passée, j'ai remarqué ça parce qu'il y a 2 ans, là, il était tout le temps bien placé, recevait la rondelle, il allait d'un bon tir, avait une bonne chance de marquer. Mais ça, j'ai pas vu ça l'année passée.
Puis moi, Slavkovski, il a un gros contrat, là, et je pense que ça va être difficile cette année. Je pense qu'il va s'assurer là-dessus un petit peu.
Ben, le problème, c'est que son contrat commence l'année prochaine. Fait que, on l'a pendant 9 ans. Là.
Il peut s'assurer pareil, il l'a signé pareil.
Ouais.
Moi, je pense que cette année, il va prendre sa légère un peu, puis dans 2 ans, ben, il va se faire botter le cul par les autres.
Là, ben, ça, sérieusement, s'il fait ça, ça me fait royalement chier.
Ben,
sérieusement, là, si on donne un contrat, puis c'est un contrat, là, tu mérites même pas d'avoir cet argent-là, puis de jouer dans le plus beau calibre qu'il n'y a pas au monde. Sérieusement, si c'est ça, là...
Dans le camp d'entraînement, il était pas mal moins tendre que l'année passée. Là.
Mais monsieur, nommez-moi un joueur qui était moins convaincant, qui a été convaincant durant le camp d'entraînement.
Pizzetto, c'était le meilleur joueur quasiment que je pense.
parce que lui, il avait un poste à gagner.
Ouais, puis lui, il ne changera pas grand-chose cette année. Monsieur, on doit se quitter là-dessus. Oui, merci beaucoup. Tu as raison, Pizzetto, c'était le meilleur, mais il n'y avait rien. Il ne changera rien cette année.
Non, mais c'est parce que lui, il avait un poste à gagner. Il a gagné. Tu sais, oui, Slavkovski n'a pas donné. Ça lui donnait quoi? Il avait son poste. Suzuki, c'est la même chose. Pourquoi pousser, comme l'année a fait, de risquer de se blesser?
C'est ça. On a encore 2 grosses games de baseball ce soir. Détroit contre Cleveland, puis les Yankees. Ça n'a pas été facile, les Yankees contre Kansas City.
Bien content.
Mais les Yankees ont gagné aussi.
Ouais.
Hey, les Dodgers, San Diego, quelle série, c'est 1-1.
Hey, ça
Philadelphie, puis les Mets, 1-1 également. Football ce soir, les Saints contre les Chiefs de Kansas City. Nouvelle d'un gardien de but de la région. Rappelle-toi, on a jasé avec Samuel Harvey cet été.
Oui, oui.
Il est à Bolzano. Veux-tu avoir des nouvelles de lui?
Ben,
3 jeux blancs sur 5.
Hey, Colin!
3 jeux blancs sur 5 pour Samuel Harvey d'Alma. Dans un petit moment.
C'est ça, il n'y a pas d'équipe en Amérique du Nord
qui en veut.
Il rêve l'autre bord puis il torche la Ligue.
Ouais, torche la Ligue. Dans un instant, Tom Lapointe.
Arrêt de jeu. Dans quelques minutes.
On est bien ici, au Saguenay, avec les résidences des bâtisseurs. Profitez d'une vie active et sociale bien remplie, d'un environnement sécuritaire et de services personnalisés avec un esprit de famille dans nos trois résidences situées à Jonquière et La Baie. Pour une durée limitée, obtenez jusqu'à 2 500 $ en rabais à la signature. Profitez pleinement de votre retraite entre nature et histoire. Pour information ou une visite personnalisée, visitez bâtisseurs.ca. Les résidences des bâtisseurs, l'Orchidée, Rivière-aux-Sables et Saint-Alexis, fièrement saguenéens.
Au 92.5. Les plaisirs démodés avec Mario Vézina.
L'entrepôt du plancher SG est fier partenaire de votre émission Les plaisirs démodés. Et pour souligner la fidélité de tous les auditeurs de cette émission de bonheur, l'entrepôt du plancher SG vous offre 10% de rabais sur votre facture dès que vous direz Les plaisirs démodés, c'est mon émission préférée. De plus, tournez la roue et obtenez jusqu'à 25% de rabais supplémentaires sur vos achats. L'entrepôt du plancher SG, le seul entrepôt de plancher 2700 boulevard Talbot Chicoutimi face au club de golf de Chicoutimi. N'oubliez pas de dire Les plaisirs démodés, c'est mon émission préférée. Et oui, 10% de rabais sur votre facture.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Pour célébrer le premier anniversaire de A&W Arvida, les restaurants A&W de Chicoutimi et Jonquière s'unissent pour proposer aux clients un petit café à 1 $ et un délicieux café latte à 2 $ tout au long du mois d'octobre. Nous remercions chaleureusement notre clientèle pour sa précieuse fidélité.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Il est 4h-13. Tom Lapointe est avec nous lundi. C'est un rendez-vous qui est attendu de nos auditeurs. Bonjour, Tom.
Salut, Michel.
La saison commence mercredi. On peut-tu dire que Martin Saint-Louis n'a pas le droit à l'erreur? Ça fait 4-5 ans qu'il est là, puis il va falloir qu'il gagne.
Ben écoute, à un moment donné, il est fort avec son expression en disant que les joueurs vont devoir mériter leur chaise. Sauf que de toutes les chaises cette année qui sentent un petit peu que ça va trembler, c'est peut-être plus la sienne qu'autre chose. Parce que à la vue, je sais qu'un camp d'entraînement, là, je suis d'accord, là, que je veux dire qu'un camp d'entraînement, on en repose certains, puis qu'on ne voit jamais les bonnes équipes, puis que le système, le protocole des matchs, des calendriers pré-saison, c'est peut-être pas ce que ça doit être tout le temps. Parce que ce sont des équipes souvent de calibre B ou C qui affrontent une équipe de la Ligue nationale et le contraire. Mais quand même, de ce que j'ai vu, ils ont été pas mal les deux premières parties qui ont gagné 2-0 puis 5-0, mais les quatre autres par après, Michel, c'était tout croche. Mais croche que ça. Écoute, t'as beau dire que t'es en match, en calendrier préparatoire, il y a quand même des choses que t'enseignes durant l'entraînement dans le jour. Et quand tu te retrouves en calendrier pré-saison avec 0-30 en supériorité numérique, et surtout que tu joues des parties contre des équipes beaucoup plus faibles, ça ne regarde pas bien du tout, ça, Michel.
En résumé, si je comprends bien, Tom Lapointe, Martin Saint-Louis condamné à gagner, mais les Canadiens sont-ils plus forts que l'année passée? Dominique puis moi, tantôt, là, on se disait ils ne sont pas tellement plus forts que l'année passée, là.
Et là, quand tu regardes les joueurs qui ont gardé cette année, parce que à la suite du camp d'entraînement, il n'y a rien pour écrire à sa mère, là, de nouveau. On a gardé Justin Barron, on ne les a pas mis au ballottage, ni Alex Barré-Boulet, ni Michael Panzetta. Les deux gros perdants du camp d'entraînement, c'est Logan Mailloux, puis...
Joshua Roy.
Voilà, Joshua Roy. Et encore là, moi, j'ai pas aimé qu'un... Avec à la lueur du camp d'entraînement, j'ai pas aimé aujourd'hui. C'est le genre de commentaire qu'à un moment donné qui va, l'année passée qui passait, etc., qui passera pas. Quand tu trouves le moyen de dire, mais Joshua Roy aurait pu nous en donner un petit peu plus. Coudon, il a-tu regardé les games de sa propre équipe? Qui en a donné beaucoup plus durant le camp d'entraînement? Moi, j'ai vu Strouble. Oui.
Strouble.
Oui, lui. Évidemment, on avait des grosses attentes sur Lane Hodgson. Était bon, mais on ne l'a pas vu dans les dernières parties. Mais des gars qui ont vraiment sorti sur toutes les parties en camp d'entraînement. Alors, pourquoi taper sur le dos de Joshua Roy alors que... Est-ce que tu as vu Josh Anderson impressionnant?
Il n'a pas rempli le but encore.
Est-ce que tu as vu Gallagher impressionnant?
Non, mais... il a ralenti depuis 2 ans.
Est-ce que tu as vu Newhook? Je peux te donner à peu près...
Tantôt, je disais à Dominique, Newhook, dans mon livre à moi, c'est un troisième trio. Il est à la deuxième ligne mercredi.
Donc, ces gars-là qui devaient nous dire, regardez, on a joué durant toute une année, on s'est amélioré, on a compris le système, on va monter d'une coche, puis on va être meilleur cette année. C'est pour ça que je dis, pour l'instant, je ferme ma gueule, je fais comme à peu près tous les gens. Ça commence mercredi soir, l'équipe sera là, mais... Il y a pas le gros hit, c'était Patrick Laine, puis là, on sait qu'on ne l'aura pas en fait. Donc, il va falloir vivre avec ça. Mais de là à dire, et moi, j'aurais voulu voir ces gars-là, je veux dire, mettre plus l'épaule à la roue, monter d'une coche, et on n'a rien vu de ça.
Puis moi, je me disais, on va avoir une compétition sur l'avantage numérique entre Caulfield et Laine, mais là, Laine n'étant plus là, Caulfield, il est tout seul, il ne peut pas mettre d'autre que Caulfield. C'est le seul scoreur qui nous reste.
Mais là, ça va mettre. Et c'est pour ça que, je veux dire, là, ça redonne, et c'est un bon point, Michel, Dominique, ça redonne, je veux dire, toute la pression au premier trio. Parce que personne d'autre ne s'est vraiment démarqué durant le camp d'entraînement. Et bon, Caulfield, Suzuki, Slavkowski, ils ont été bons l'an passé. C'est impossible qu'ils recommencent l'année et qu'ils soient tout croche. À un moment donné, quand la chimie, elle s'installe, puis ça marche. Tu comprends? Mais donc, je ne suis pas trop inquiet, moi, pour le premier trio. Sauf que ton point, il est bon, Michel, quand tu dis, là, vu que Laine n'est pas là, Caulfield, à un moment donné, a dû se dire, si moi, je suis en léthargie, puis que Laine, il remplit le net, là, et il touche les cordages souvent, ça va y enlever une forme de pression. Alors là, mon chum, la pression, et Caulfield, il risque de la réavoir assez facilement, hein?
Absolument.
Un dossier à suivre. On est content de te parler, Tom, parce que tu connais le baseball et tu connais le marché de Los Angeles. Puis hier, j'ai écouté la game des Padres puis des Dodgers. Puis à la 7e manche, on a arrêté la game pendant 12 minutes. Les partisans des Dodgers sont-tu fous de même tout le temps?
Ben, écoute, mais c'est une rivalité qui vraiment... La rivalité, tu sais, quand est-ce qu'elle a vraiment commencé? C'est quand Machado est passé aux Dodgers. Machado est passé aux Dodgers, n'a pas été très bon. Les Dodgers n'ont pas été bons en série mondiale avec Machado. Et depuis qu'il est parti à San Diego, Machado a tout le temps eu... Il était un peu baveux, ces bars-là. Tu sais, il a du... Si on fait des comparaisons avec le hockey, il y a du Gallagher dans le nez, là, de temps en temps. Là, il aime bien écœurer le peuple. Et il y a toujours toutes sortes d'expressions. Et je veux dire, Profar, hier, quand la balle est frappée par Mookie Betts, et qui va voler le circuit, je veux dire, et un attrapé exceptionnel. Là, comme,
ah ouais, quel catch! D'ailleurs, San Diego, hier, défensivement, ils ont été extraordinaires.
Ah oui.
Ah oui,
il y a eu 4-5 gros catchs dans la game.
Puis en plus, on a nargué un petit peu la foule, donc ça les a dérangés un petit peu.
Mais c'est là que je vous dis mon point.
Oui.
C'est que Profar, souvenez-vous du geste, il capte la balle et il nargue. C'est le premier à narguer les fans des Dodgers et surtout du gars à qui il enlève la balle. Puis il va faire l'erreur après de reprendre la balle après avoir volé un circuit, je veux dire à Mookie Betts, de reprendre la balle puis de la renvoyer au gars à qui il a volé le circuit sous son gant. Là, tu comprends? Généralement. Et c'est de là que ça partit. Et là-bas, oublie pas, c'est à la porte du Mexique, là, entre Los Angeles et le Mexique. Là. Il y a beaucoup de commentaires à ratio. Et à un moment donné, là, moi, j'ai écouté un bout de temps le match sur Sportsnet avec Joe Davis, que je trouve sexy, même si j'aime beaucoup Roger. Puis Denis Cazavant, Joe Davis, c'est un présentateur exceptionnel qui décrit la balle comme rarement. On avait dit on a tellement dit de belles choses, là, je veux dire, des présentateurs des Dodgers, mais Joe Davis est un présentateur exceptionnel. Et hier, ils ont été obligés d'arrêter la game durant 10 minutes de temps et de prendre le micro et de dire arrêtez parce que sinon on va arrêter la game. Je veux pas lancer.
Si la game est arrêtée, les Dodgers perdent automatiquement? Non.
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 Non, on arrête la game, on recommence quand c'est une heure.
Non, dans ce temps-là, c'est ce qu'ils font, Michel, c'est qu'ils font un nettoyage dans les gradins. Il aurait pu dire.
OK, exemple, on en sort une vingtaine dans ce gang-là. Là.
On en sort une vingtaine.
Okay, ouais.
Puis ils disent on ne commence pas la game tant que vous n'êtes pas reposé un peu.
Ah,
mais
ouais.
Ça démontre bien, pour avoir vécu là-bas, là, Michel, Dominique, puis les gens qui nous écoutent, le puits là, qu'ils ont rebâti, les Padres, leur équipe, comme il est là, avec les Machado, avec Tatis Jr., oui. avec Merrill.
Tatis, il a joué toute une game hier, en défense, puis en attaque. C'est tout qu'un joueur de baseball, Tatis. Là.
Hier, c'est Tatis qui est la star et qui a mis complètement, là, je veux dire, les billets. Otani, hier. Otani, n'oublie pas, là, hier, pour la première fois, c'est rare qu'un lanceur réussisse à le museler comme il l'a fait. Et c'est quelqu'un de son pays.
En
c'est
plus,
Yu Darvish ouais. qui, à 38 ans, le bonhomme, il lance en tabarouette. Donc, s'il y avait un cinquième match, j'ai l'impression que cette série-là va se rendre à cinq matchs. S'il y avait un cinquième match, j'ai l'impression que c'est Darvish qui reviendra au Monticule. Je suis inquiet, mais
là. Sauf que là, les Padres, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont allés chercher un match à Los Angeles. Là, ils s'en vont deux games à San Diego, là.
Ouais, t'oublies pas, là. Autant il y a de l'ambiance au Dodger Stadium, au Ravin Chavez, là, à Los Angeles. Là-bas, là, c'est la folie furieuse. Le stade est bâti en plein centre-ville. Ils ont fait un truc à San Diego que tu ne vois pas dans un stade. C'est que tu as, sur l'arrière du champ gauche, ils ont ouvert une section où tu as 5000 personnes qui, sans payer, peuvent aller s'asseoir comme tu es assis dans le jardin puis dans le parc. Puis tu vois la game comme si tu avais payé un billet pour la game. Et il y a une ambiance de fou.
Ça promet.
Oui.
Quand on s'est parlé lundi passé, Tom Lapointe, Pete Rose n'était pas décédé. On l'a appris lundi soir.
Ouais.
Pete Rose est un des grands du baseball. T'sais, oublions ce qu'il a fait en dehors du baseball. Là. Quel frappeur de coup sûr. Je veux t'entendre sur Pete Rose.
Ben, moi, que Pete Rose ait parié, il a toujours défendu que oui, il a parié. Il a parié pour son équipe. Il n'a jamais parlé contre son équipe. Et ça, je le prends. Moi, Pete Rose était un des plus grands. Quand tu dis de joueur qui se donnait. Moi, j'ai jamais vu Pete Rose. Je ne sais pas s'il pariait contre son équipe de la manière qu'il jouait, je ne comprends rien. Parce qu'il n'était pas sans. Tu sais, la fameuse expression, là, tu donnes ton 110%. Là. Et lui, là, c'était un joueur dominant. C'était un joueur qui, je veux dire, aimait le public. C'était un joueur qui passait tout le reste après sa carrière à être dans des endroits à signer les autographes où il était payé pour faire ça, puis c'est correct. Mais c'est un gars qui a tellement donné pour la game, et je trouve déplorable qu'il soit mort sans qu'il ait été intronisé au temple de la renommée du baseball. Parce que des gens qui ont fait des choses tout croche dans la vie, c'est arrivé. Mais moi, Pete Rose, je comprends pas. Je pense pas que ça excuse pas là, qu'il n'a pas le droit de parier. C'est dangereux là, de parier. Là. Je veux dire, les gars... Puis dans ces années-là, les gars étaient plus tendance à parier. Pour une raison, c'est qu'ils gagnaient beaucoup moins d'argent que les gars qui gagnent aujourd'hui. Aujourd'hui, un athlète professionnel, avec l'argent qu'il gagne, s'il essaye en plus d'aller parier, ça veut dire qu'il est malade dans sa tête.
Oui, parce qu'il n'a pas besoin de ça.
T'as pas besoin de ça.
Pas besoin de ça.
Pour manger trois fois par jour, là. Aucun problème.
Et Pete Rose, crois-tu qu'un jour il va être intronisé, malgré tout ce qu'on sait, puis tout ce qu'on dit, puis tout ce qui s'est passé?
Les gens disent oui, mais moi, je suis sceptique.
T'es sceptique, hein?
Je suis sceptique. Puis je trouve que, moi, je serais content qu'il soit, mais je trouve ça, je me répète, très déplorable qu'on ne l'a pas fait durant de son
Ben
de
c'est
son
ça. Je parle le fait qu'il soit maintenant, qu'il nous a maintenant quittés. Je pense que, bon, on va passer tout droit.
On va passer tout droit.
Mais c'est en plein. On est passé dans le beurre, là, pour une expression de baseball. On a vraiment frappé dans le beurre avec Pete Rose parce que. Écoute, il a fait des délimes de Morgan, de Tony Perez. Il y a tellement. On le voit, là, je veux dire, dans le sport professionnel, les athlètes qui se traînent les pieds. Lui, là, il ne connaissait pas ça, se traîner les pieds. Tu sais, je veux dire, il arrivait, il mangeait du baseball, peu importe ce qui se passait, il était dans le game. Puis lui, quand il jouait à la game, il n'avait pas de chum, ses buts, là. Tu comprends? Puis quand il volait le deuxième, là, s'il fallait qu'il arrache les crampons, de l'autre, là, que sa tête, il le faisait. Tu comprends? Il était. C'était une bête, ça. Et c'est un gars qui a redonné. Moi, je me souviens une année, les gars, Pete Rose, je pense que c'est la première année en 2020, durant la pandémie, où ce qui était analyste sur les grands réseaux américains, le show qu'il a donné avec ses anecdotes et la façon qu'il parlait avec passion de la game, j'étais content qu'on l'avait ramené. Et encore là, ce sont les critiques de gens qui ont dit, après une année, qu'ils l'ont sorti de là. Parce que ça avait été un des plus belles analyses colorées que j'avais pas vues.
Ah ouais, il était savoureux en ondes.
Oh, fantastique.
Ah ouais.
Ah, il est drôle, là. Tu peux pas t'imaginer. En tout cas, moi, je l'avais écouté durant toutes ces séries-là avec passion, puis j'aimais déjà le gars. Puis, écoute, le fun qu'il avait avec ses collègues de travail, là, c'était avec Alex Rodriguez et ainsi de suite, on the air, c'était fantastique.
Tom Lapointe, nous aussi, on est bien contents de t'entendre à tous les lundis dans notre émission Saguenay. Merci beaucoup. On se reparle dans 7 jours.
Est-ce qu'on se parle?
Ah, c'est vrai, la semaine prochaine.
On est en congé lundi.
On est en congé. Donc, dans 2 semaines, t'as raison, Tom.
Et que ça va être long.
Mais, merci.
J'ai bien hâte de voir dans 2 semaines où va être rendu le Canadien. Oh, ça va être intéressant.
Déjà, on va peut-être commencer à se questionner.
Oh, peut-être.
C'est vrai, congé la semaine prochaine. Merci, Tom Lapointe.
Merci, Tom.
Allez, les gars.
Dans un petit moment, on va discuter avec Martin Lamarche, un ancien joueur des Saguenayens ce soir du football, les Saints.
Oui.
Contre les Chiefs. Il y a 2 parties de baseball, 2 grosses joutes de baseball, et puis le hockey de la Ligue nationale, les Devils qui ont joué en fin de semaine en Tchéquie.
2 victoires.
2 victoires, mais demain ça commence.
Ça commence, oui.
Chicago qui joue, Boston, Canadien, c'est mercredi contre...
Toronto.
Dom, honnêtement, là, pas sûr qu'on fait les séries.
Ah, on les fait pas.
On fera pas les séries, tabarnou. Hey, je regardais l'alignement.
Je leur donnais pas les séries, même avec l'année, je dis, ils vont se battre.
Ah ouais, avec l'année, ils seraient battus. Mais là, je regardais le deuxième trio, New Hook. Qu'est-ce que New Hook fait là? Je te dis pas qu'il est pas bon, là.
Il était là. Même avec l'année, il était là. C'est un joueur de deuxième trio.
On n'est pas fort.
Ah, il était déjà pas fort. Mais Canadien, là, c'est un début de saison pas évident. Toronto mercredi, Boston le lendemain. Et Ottawa samedi.
Les sénateurs, là, ils ont dans le collimateur, les Canadiens. Ouais. Bonne chance. Dans un petit moment, Yves Voldic.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en octobre, les prix rougissent. On t'offre encore 15 % de rabais sur nos Ram 1500 2024 et aussi 5 % sur nos nouveaux 2025. Aussi, 18 000 $ de rabais sur nos Grand Cherokee 4XE 2023 et 16 000 $ sur nos Dodge Hornet hybride branchable 2024. Pour finir, t'as aussi 10 % sur les Wrangler 4XE. En octobre, les prix rougissent chez... L'Étoile Dodge Chrysler.
Vous faites du camping? Le terrain de votre chalet est immense. Vous voulez vous déplacer sans vous ruiner? Les centres d'autonomie vous offrent maintenant des voiturettes de golf de marque Caro. 3 modèles disponibles, 4 à 6 places. Mag aux 4 roues, tout équipé pour moins cher qu'un côte à côte. Venez voir nos toutes nouvelles voiturettes de golf pour camping et chalet au centre d'autonomie. 690 rue des Actionnaires, Chicoutimi. 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini. Avec les centres d'autonomie, la vie continue.
R. Spence Fils vous offre présentement le Can-Am Outlander 6x6 4-5 ans à seulement 13 500 $ plus taxes et aussi la possibilité de financement à 2,99%. R. Spence Fils, Jonquière.
Ici André Deschênes, directeur de l'information au 92.5 CKJ, ma radio d'ici. Cet après-midi, 16h30, ne manquez pas l'émission du retour du 92.5 animée par Dominique Bolduc, Éric Lavoie et Jean-Michel Côté. Nous vous présentons aujourd'hui une émission spéciale sur les récents développements impliquant la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour, et le directeur général des élections, en plus d'avoir les commentaires de conseillers municipaux sur ce qui se passe actuellement à la ville de Saguenay. Et parmi les commentaires, ceux de Jean-Marc Crevier, visé par une poursuite éventuelle de la mairesse de Saguenay. De plus, nous aurons la collaboration de l'ex-éditorialiste et directeur général du journal Le Quotidien, Denis Bouchard, dans l'émission, et en plus d'ouvrir les lignes pour vous entendre à compter de 17h sur nos ondes. Ne manquez pas cette émission spéciale sur la situation impliquant la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour, et le directeur général des élections du Québec. Émission spéciale présentée aujourd'hui, 16h30, sur les ondes de votre radio régionale, le 92.5, ma radio d'ici.
Ah, début de saison des Saguenayens, on va parler avec un ancien des Sags, mais quel beau début pour les...
Ça va bien?
Pour les Sags.
Score début.
Yves Voldic, bonjour.
Oui, salut les gars. Oui, excellent début de saison pour les Saguenayens. Les partisans qui Je vais m'avancer, là, mais ils n'ont pas à s'inquiéter pour minimalement les trois prochaines saisons avec ce qu'on voit sur la glace en début de saison. Il ne faut pas penser seulement en termes de victoires. Comme le dit Yannick Jean, les victoires, oui, on les prend, mais c'est le résultat. C'est comment on travaille, c'est comment on développe, comment on projette de se développer au cours des trois prochaines années. C'est ça qui est vraiment important là, du côté de l'organisation des Saguenayens. Puis un début de saison, comme ils connaissent actuellement, là, 4 victoires, une défaite en prolongation, là. On n'a pas vu ça comme début de saison depuis la saison 2019-2020. Et ça, c'était la saison de la fameuse COVID. Là,
ouais. Ah oui, avec Harvey Pinard et compagnie.
Et Samuel Hood était avec l'organisation des Saguenayens. Donc, c'est encourageant. Il y a des joueurs qui ont... un petit peu de retard déjà. On remarque qu'il y a certains joueurs là, qui mettent du temps à prendre leur élan, mais il y en a qui sont vraiment établis. Là, on pense entre autres à Emmanuel Vermette, on pense à Maxime Massé, à Raphaël Précourt, qui a un excellent début de saison devant le filet des Saguenayens. Donc, c'est encourageant, puis les foules au centre Vézina sont bonnes, donc tant mieux pour l'organisation.
Et qui est notre ancien joueur des Sags aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, on reçoit un joueur qui a participé avec l'équipe, avec les Saguenayens, en 1991-92 jusqu'en 1992-93, où il a été transigé au Lynx de Saint-Jean. Quand même un joueur de rôle avec l'équipe. Et en bout de ligne, immédiatement, c'est Martin Lamarche qui était un choix de 5e ronde en 1991 par les Saguenayens, le 60e au total. Bon après-midi, Martin.
Bonjour tout le monde.
Salut Martin. On demande toujours à nos invités, les anciens joueurs des Saguenayens, parce que de se rendre aux juniors majeurs, c'est une chose, mais c'est de bien partir dans le domaine du hockey quand tu es plus jeune. Comment ça a commencé pour toi, Martin Lamarche, au hockey mineur?
Ben, mineur, c'est sûr que mes belles expériences qu'on se souvient tout le temps qu'on aime entendre là, sur l'eau, les patinoires extérieures. Je sais qu'en 81, quand on a déménagé sur le bord de la rivière Belle, mon père aimait bien ça, nous préparer une petite patinoire, puis on rentrait les pieds gelés, puis on y retournait pareil. Mais c'est un petit peu de même que mon évolution au niveau hockey a commencé. Un petit peu au hockey mineur à Sainte-Terre, mais... beaucoup à Amos. Je me suis trouvé à partir de la maison, moi, de mes parents, quand même assez de bonheur. Je suis allé à Amos jouer au hockey mineur à 12 ans, à l'âge de 12 ans.
Et tes premières expériences au hockey mineur, ça s'est passé comment, Martin?
Ben c'est ça. Je me suis retrouvé à déménager à Amos. On appelait ça là, les comètes d'Amos, si on veut. Puis après, ben la première année des forestiers d'Amos. Midget 3A, et ainsi de suite. Là, après ça, repêché par les Saguenayens lors de 16 ans, là, mon année 16 ans.
Tu fais partie du groupe des anciens Saguenayens avec qui on s'entretient chaque semaine. Est-ce que tu as un souvenir d'une personne qui a exercé une grande influence dans ta carrière de hockey junior?
Ben, c'est sûr que moi, le hockey junior, on est quand même des jeunes adultes, si on veut dire. Là. Mais je pourrais dire pas mal tous mes coachs, mais surtout... Michel Pronovo, je dirais, à Shawinigan, là, qui a eu une grosse impact. Peut-être su quand même prendre en fait de jeune hockeyeur. Je trouve que c'est un petit peu plus là que ça a cliqué. Mais sinon, tout coach a eu une grosse impact, je pourrais dire.
Quelle était ton influence familiale par rapport au hockey?
Je comprends pas. Mon influence familiale, vous voulez dire...
Est-ce que ça venait de ton père, de tes frères, de tes oncles?
C'est sûr que nous autres, en famille, tout le monde a aimé le sport. C'était une famille très sportive, mais plus de mon père, je dirais. Oui, un petit peu plus de mon père, oui.
Quel était ton surnom avec les Sags, puis qui étaient tes meilleurs amis?
Je me souviens pas tant de mon surnom lors des Sags. Là, on retourne dans le passé en tabarouette. Mes meilleurs amis, Carl Blondin, définitivement, Christian Caron, c'était pas mal les deux qu'on faisait bien les blagues ensemble.
Depuis la fin de ta carrière dans la Ligue junior majeure du Québec, as-tu revu des matchs? Et si oui, quelle différence as-tu remarqué par rapport à ton époque lorsque tu t'es amené des Forestiers d'Amos avec les Saguenayens?
Je suis de l'Abitibi, donc je suis près de Val-d'Or. Je suis allé quelques fois, pas souvent. Je crois que le jeu est beaucoup moins physique, mais beaucoup plus rapide.
Et tu suis ça de façon... Tu dis 4-5 fois que tu es allé à des matchs?
Ouais, tu sais pas... Non, c'est sûr, peut-être bien 4-5 fois là, depuis très, très longtemps. Là, ouais.
Parle-nous maintenant de ta situation familiale, épouse, conjointe, si tu as des enfants. Qu'est-ce que tu as fait après ta carrière junior? Qu'est-ce que tu fais maintenant et où tu habites?
J'habite encore en Abitibi, mon lieu de naissance. J'ai une belle petite place en campagne sur le bord de l'eau, très belle place zen et paisible. J'adore le kayak. J'ai eu une pourvoirie. En ce moment, j'ai plus la pourvoirie. J'ai eu une pourvoirie à droit exclusif. Chasse et pêche pendant quelques années. En ce moment, je travaille dans le domaine de la foresterie. Je suis en charge du transport de bois pour amener à l'usine. C'est un petit peu ce que je fais. Je suis célibataire, pas d'enfant, divorcé, puis c'est pas mal ça, là.
Et quelle est la personne dont tu as gardé le meilleur souvenir de tes années avec les Saguenayens?
Meilleur souvenir, c'est sûr que mes beaux moments avec Carl Blondin, c'est pas mal ce qui reste. Puis d'ailleurs, c'est une personne qu'on garde contact ensemble, c'est pas mal ça, là. Mes belles années avec Carl Blondin, mais aussi ma famille de pension, là, Michel Bolduc, puis Lynn Gagnon. Là, ça, c'était des personnes formidables pour moi. Là, ils m'ont vraiment aidé, étant donné que j'étais là jeune à Chicoutimi, là, 16 et 17 ans.
Et là, tu parlais de Michel Bolduc. Est-ce que c'est l'ancien qui a joué pour les Saguenay?
Oui, exactement. Oui, les Nordiques, les Saguenay, oui.
Et puis, est-ce qu'il te donnait des conseils? Est-ce qu'il t'a aidé à t'adapter au hockey junior?
Michel m'a aidé énormément. C'est sûr que c'était une figure extérieure que de mon père, mais il a joué un très grand rôle à me faire réaliser un peu ce qui était à venir, puis ce qui était en ce moment là en développement. Mais non, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'est sûr que ça... Je suis pas une personne qui reste en contact énormément, mais c'est des personnes que j'oublierai jamais, là.
Durant ta carrière de hockey junior, tu as joué pour 4 formations dans la Ligue junior majeure du Québec. À part le Centre Vézina, où tu as joué avec les Saguenayens, où connaissais-tu tes meilleurs matchs et tes pires matchs?
Ben, en étant plus vieux, peut-être aussi plus établi, 19 ans, dernière année junior, je dirais Shawinigan, probablement mes meilleurs moments. Les pires, ça devrait être là aussi, j'imagine. T'as les meilleurs et t'as les pires aux mêmes endroits parfois, mais on jouait plus souvent là. Je dirais à Shawinigan, pire et meilleur.
Pour les partisans qui t'ont peut-être perdu de vue après ta dernière saison avec les Cataractes de Shawinigan, t'es allé dans la Ligue américaine, t'as évolué avec les Sénateurs de l'Île-du-Prince-Édouard, les Flames de Saint-John, les Bears de Hershey également un peu plus tard, dans la Ligue United avec les Icemen de la Colombie-Britannique, je pense. Également au hockey senior québécois. Tu as joué à Fort Worth également dans la Western Pro Hockey League à San Angelo. Parle-nous un peu de toute cette expérience-là que tu as vécue au hockey mineur nord-américain et au hockey senior québécois.
Commençant par la Ligue américaine, c'est sûr que c'est un petit peu là que tu te rends compte de ce que tu vas faire plus tard, je crois. Moi, dans mon cas, les efforts peut-être n'étaient pas là. C'est peut-être pas à ce que j'aspirais, peut-être, un coup que je me suis prouvé ce que je pouvais faire à moi-même. Donc, après ça, c'est plus un petit peu, il y en a qui continuent leur rêve puis qui persistent. Moi, c'était peut-être plus un petit peu des ligues plus basses pour essayer d'avoir un petit peu plus de fun, je croirais. Senior, c'était une expérience pour m'en revenir ici, là, quitter le Texas puis passer à d'autres choses, ma pourvoirie un peu. C'était un petit peu comme ça, mais c'est sûr que chaque endroit a eu son bon et son mauvais, mais je retire des belles expériences, une ou autre des places là, que j'ai côtoyées.
Lors de ta dernière saison junior, Martin, tu as eu 49 points en 58 matchs avec les Cataractes, mais 353 minutes de punition, tu aimais ça aller dans le trafic?
Ben, c'était mon style. Je pense que, justement, tu sais, j'ai parlé de Michel Pronovo, mon entraîneur. Je pense qu'il m'a amené à la limite, puis je voulais voir où est-ce que je pouvais aller. C'est sûr que j'ai été craintif. Là, c'était mon premier camp de la Ligue nationale cette année-là aussi. Je me suis présenté à Ottawa, c'était l'année du lockout, mais j'avais vraiment mis toutes les chances sur mon bord. Je pense que c'était vraiment une saison de rêve d'un sens pour un gars comme moi, puis ça l'a reflété un petit peu quel genre de joueur j'aurais pu être, là. Oui, c'est sûr. J'aimais bien ça, le trafic, oui. C'était plus le hockey de notre époque, je pense.
Oui, ben oui, c'était assez fréquent, disons.
Tu parlais justement de ton expérience au hockey mineur qui t'a permis de voir vraiment où tu voulais aller. Si on regarde un petit peu en recul de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu aurais fait de différent 30 ans plus tard là, pour attirer l'attention des recruteurs professionnels pour que ça, qu'il y ait un déclic là, à ce niveau-là?
Ben, moi, je pense que j'aurais pas vraiment fait de quoi de différent parce que je regrette pas du tout. D'ailleurs, je me suis comme sorti un petit peu du monde du hockey, mais c'est sûr qu'il faut que faut le vouloir. C'est le dicton, le vouloir, c'est le pouvoir, mais c'est certain que les jeunes aujourd'hui, s'ils se font à croire qu'ils veulent le faire, ils vont faire un petit peu une carrière comme moi, là, et tirer sur le long, mais. Si tu veux, tu peux. Faut que tu mettes tous les efforts, puis il y en a plusieurs à mettre. Tu perds un petit peu la vie de jeunesse, mais il faut que tu le fasses, surtout aujourd'hui. C'est rendu des jobs 365 jours par année qui n'étaient pas dans notre temps.
As-tu une anecdote inoubliable de ton passage avec les Saguenay?
Je dois en avoir plusieurs, mais c'était pas les réseaux sociaux dans le temps. Je suis pas sûr que ça... Je suis pas sûr que ça se dit à la radio. Mais non, pas de des beaux souvenirs, très, très beaux souvenirs, oui.
Qui est le meilleur joueur avec lequel tu as évolué avec les Saguenay?
C'est sûr que vu sa carrière qu'il a eue après aussi, tu sais, je ne peux pas penser à Éric Fichaud, là. C'est Éric Fichaud, oui.
Éric Fichaud, il avait une grande influence dans ton équipe?
Il était quand même jeune aussi à ce moment-là, mais tu voyais que c'était plus Sylvain qui était goaler numéro un, mais tu voyais que Fichaud allait prendre les leads un jour.
Tu as porté le numéro 27 avec les Saguenayens. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi, le numéro 27?
Ça n'est peut-être une qui rentrerait dans les anecdotes. Moi, en particulier, c'était pas un idole ou quoi. Pour le moment, c'était la date de fête de mon ex à ce temps-là.
D'accord. Dans ta jeunesse, quelle était ton équipe favorite, tout sport confondu, et pourquoi?
Les Nordiques, probablement, oui. Nordiques, parce que j'aimais ça être un petit peu mal-aimé, peut-être, là. Je ne voulais pas prendre pour les Canadiens.
Est-ce que tu partais de la BTB pour aller voir jouer les Nordiques à Québec?
Non, mais oui, on est allé quand même parce qu'on a gagné le tournoi de Pee-Wee de Québec à Amos, puis ça a commencé un petit peu de même. On est allé les voir en même temps.
Quel était ton joueur favori avec les Nordiques à cette époque-là?
Tony Twist est venu aussi un année plus tard, mais je peux dire, tu sais, j'aimais l'équipe en général, là.
Pendant ta saison et demie que tu as passé avec les Saguenayens, parle-nous un peu des endroits que tu fréquentais et retourne-nous un peu de ta famille de pension.
Ben moi, en étant jeune, 16 ans, tu sais, les endroits fréquentés, c'était plus on se fréquentait de pension à pension, là, tu sais, ça me lâchait un petit peu. Mais moi, je restais chez Michel beaucoup, puis Lynn. Mes amis venaient me voir là, puis ils m'avaient fait une chambre de rêve, tu sais, à l'écart, puis vraiment privée. Puis en tout cas, ils avaient pris soin de moi, puis pas à peu près.
Dans tes souvenirs, tu disais que tu avais des anecdotes, mais qui se racontaient peut-être pas. Est-ce que tu as vécu quelque chose d'étrange que tu peux raconter lors de ta carrière junior à Chicoutimi?
Quelque chose d'étrange. Regarde, peut-être l'eau chaude. Pourquoi qu'il n'y avait pas d'eau chaude quand on allait jouer à Laval?
Ah? Comment ça?
Ben, je sais pas. Il y avait le House of Pain, je pense qu'il jouait sur l'intimidation.
Oui.
La gravelle, un petit peu, là, qu'on entendait parler, mais on l'a vécu un petit peu. Là,
fait qu'il mettait pas d'eau chaude dans les douches.
Pardon?
Il mettait pas d'eau chaude dans les douches.
Ouais, pas d'eau chaude dans la douche ou bien du sable là, pour qu'on qu'on magane nos lames de patin, des choses de même.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des tactiques un petit peu spéciales à Laval. Le sable, il y avait également des agrafes pour des agrafeuses là, au banc des joueurs. Donc, souvent, les joueurs devaient retraiter au vestiaire pour aller refaire aiguiser leur patin. Puis ça leur faisait sauter un tour ou deux. Donc, ça permettait à Laval de pouvoir jouer ses lignes régulières.
Tu me fais penser, mais Martin, tu parles du vieux House of Pain qui est toujours debout. Tu as joué à Shawinigan dans le vieil aréna Jacques Plante avec les lumières jaune-orange. C'était comment de jouer dans cette aréna-là? Y avait-tu quelque chose de spécial? Écoute, c'est quand même un aréna qui datait des années 30.
Ben, nous autres, tu sais, il n'y avait pas les. On a eu une bonne saison, la saison que j'étais là, fait qu'on a quand même réussi à avoir des bonnes foules. Mais c'était petit, hein? C'était pas une grosse aréna. Donc, quand il y avait du monde, c'était fabuleux jouer là. C'était une belle ville de hockey junior, je trouve, Shawinigan, comme Chicoutimi. Les places éloignées. L'Abitibi, je suis certain que Val-d'Or. Les places éloignées, les jeunes, on dirait, on avait moins de choses à faire, puis se concentrer un petit peu plus au hockey.
Tu parlais tout à l'heure que lorsque tu as pris ta retraite, tu t'es retiré un petit peu du hockey. As-tu gardé contact avec certains de tes anciens coéquipiers de l'époque?
Carl Blondin ici et là. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus facile. Michel Saint-Jacques, Carl Blondin, Dave Béliveau, Christian Caron, Daniel Paradis, un petit peu ici et là, là, oui.
Si tu n'avais pas joué au hockey, Martin, quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer professionnellement?
Je crois que j'aurais bien aimé le football. Ah. Oui, football, pas de bataille.
Mais du robuste.
Oui, c'est sûr, juste du robuste. Pas que je suis contre les batailles, parce que je trouve qu'ils ont leur place, là, mais... le hockey d'aujourd'hui, mettons, est beaucoup mieux qu'il était dans mon temps, je crois. Puis peut-être que ça aurait fait que j'aurais persisté un petit peu plus aujourd'hui, étant donné que c'était moins des combats de boxe prémédités comme avant.
Ouais, c'est vrai. Et t'es-tu un amateur de football?
Oui, énormément. Football américain.
Football américain? Quelle est ton équipe favorite?
J'aime beaucoup, beaucoup les Cowboys, étant donné que j'ai été au Texas pendant 3 ans. J'aime beaucoup les Cowboys.
Est-ce que tu es allé voir des matchs des Cowboys lorsque tu étais là-bas?
Oui, mes ex-beaux-parents, enfin, il y avait des billets de saison, puis je suis allé à l'occasion. Oui.
Comme organisation, les Cowboys de Dallas, là, oh, parce qu'on dit que c'est gros, c'est-tu comparable aux Yankees, au baseball, puis aux Canadiens au hockey?
Ben oui, on peut le mettre dans des... Ben, c'est juste que c'est le football américain, fait que c'est fois plusieurs fois, mais oui, je comprends ton point de vue, là. C'est comme, ouais, c'est exactement le même.
Et comment évalues-tu les chances des Cowboys de gagner cette année?
Ils ont besoin de... Ben, j'aime les Cowboys, mais j'aime peut-être pas l'attitude un peu là, de Vegetaria, mais il va falloir qu'ils jouent plus en équipe.
Et si on sort un petit peu du côté hockey pour terminer de mon côté, là, les questions, si Michel et Dominique en ont, ils poursuivront. L'endroit dans le monde où tu n'es pas allé et que tu aimerais visiter?
L'Italie, je crois, oui. L'Italie, j'aime pas beaucoup l'avion, mais si j'aurais allé loin, faire plus que 4 heures, genre aller dans le sud, Mexique, République, Cuba, ben ce serait l'Italie.
T'es pas le seul joueur de hockey qui n'aime pas l'avion, là. Il y en a une couple. Je me rappelle très bien que Lorne Worsley, là, dans le temps, il n'avait pas besoin d'aller à Los Angeles, là, dans le temps des 6 équipes. Lui, là, il prenait le train. Des fois, il aurait pu prendre l'avion, prenait le train pour aller à Boston.
Ah, bien, ma pourvoirie, là, les hydravions qui voyageaient mes clients, hey où il aurait pu me sauver du temps. J'aimais mieux faire 6 heures d'argot que de faire une demi-heure d'avion.
Hey Martin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Quel sera notre invité la semaine prochaine, Yves Bolduc?
On attend la confirmation, mais on devrait recevoir...
Ben, c'est vrai, la semaine, ça va aller dans 2 semaines.
Ça va aller dans 2 semaines, oui. Dans 2 semaines, le 21, ça devrait être un joueur régional. On est en train de travailler là, au niveau de son horaire, ses disponibilités. Un gars que les gens ont apprécié après l'époque d'Yves Lassalle, Sébastien Lavallière.
Oui, sûrement. Merci beaucoup, Yves Bolduc.
Merci, bonne semaine, les gars.
Merci à Martin,
merci
encore
à Martin aussi. Alors, Yves,
merci, tout le monde.
Dominique, ce soir, 2 matchs de baseball. À date, c'est intéressant ce qu'on voit.
Absolument.
Alors, les Yankees?
Les Yankees contre les Royals de Kansas City. Donc, ça va se jouer dans l'Américaine. Et les Tigers de Détroit, ben, ça vient de commencer là, contre les Guardians de Cleveland. On est déjà en deuxième manche. C'est l'égalité. C'est ça, ouais, l'égalité 0-0 en début de deuxième.
Et tantôt, avec Yves Bolduc et Martin, il était question de football. Il y a un match ce soir, comme à tous les lundis. Les Chiefs de Kansas City, qui ont un bon début de saison, même si il y a des victoires qui ont été gagnées comme ça.
Ouais.
Je ne suis pas du grand Patrick Mahomes encore.
Non, pas encore, mais ils trouvent le moyen de gagner. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les possibilités de gagner, les Bengals de Cincinnati, ben, eux auraient pu en gagner plusieurs, puis ils sont 1-4. Les 49ers, ils vont jouer jeudi contre les Seahawks de Seattle. Ils sont 2-3. Il y a beaucoup de déceptions depuis le début de la saison, puis eux en font partie. Mais du côté des Chiefs, 4-0, tout va très bien. On va en viser pour une cinquième ce soir contre les Saints.
Et en terminant, on va revenir à ce qu'on a dit tantôt avec Tom Lapointe. Au début du camp d'entraînement, on n'aurait pas pensé que Logan Mailloux allait se retrouver à Laval pour le début de l'année, puis encore moins Josué Roy.
Oui, effectivement.
Alors, deux plus... c'est qui l'autre qui était retranché? Ah, gardien de but, là, Dobusch.
Oui, Dobusch, mais bon, quand tu avais Primo puis Montembeau avec des contrats en Ligue nationale, c'est un peu plus difficile de leur faire de la place. Mais bon, on a Oliver Kapanen, Emil Heinemann, font partie de l'alignement de départ, donc de la liste de 23 qui sera présentée à la Ligue nationale de hockey. Alex Bariboulet, il a réussi à se tailler un poste. Ouais. Lui, se disait très content d'arborer le chandail du Canadien. Il dit, il a très hâte au premier match qui aura lieu mercredi. Il dit surtout son père. Son père, qui est un grand fan des Canadiens lors des belles années, va être très heureux de le retrouver avec le chandail bleu-blanc-rouge.
Et comme le disait Tom Lapointe tantôt, Dominique, bonne chance à Martin Saint-Louis.
Oui.
Parce que là, ça fait quoi, sa quatrième année?
Troisième saison complète, quatrième depuis qu'il a fait son arrivée. Toujours pas fait les séries, même pas passé proche. La patience va avoir certainement ses limites du côté de la direction du Canadien. Si on ne sent pas d'amélioration chez l'équipe, est-ce que ça veut dire que le coach ne fait pas le travail? On va voir commencer à se poser la question. Puis moi, je pose déjà une question. C'est pas normal qu'on soit 0-30 en avantage numérique dans des matchs en concours. 0-30.
Surtout que le coach est un scoreur né.
Oui.
Et là, je sais pas, ton bâton magique. Hey, Saint-Louis n'a scoré début dans la Ligue nationale. Okay. Il doit savoir qu'est-ce qui marche pas. Nous autres, on l'a dit tantôt. On a analysé le jeu de puissance. Trop de passes, puis il lance pas assez au but, puis toujours les mêmes mouvements. Saint-Louis, tabarouette, c'est un score. Il n'a fait des buts dans la Ligue nationale. Hey, l'avantage numérique, il a dû en scorer, lui, des buts.
Oh, ben oui.
S'il y en a un qui serait supposé d'être capable de mettre le doigt sur le bobo.
Je suis capable de trouver le nombre de buts qu'il a marqué en avantage
numérique. En avantage numérique?
Pas lol, mais.
Ouais, demain, tu vas me donner ça.
Capable de trouver ça, okay. Oui. Écoute, il y en a marqué 391 en Ligue nationale.
On va en avoir une vingtaine en avantage numérique. 20, 25, 30. Hey, merci, Dominique.
Merci.
On vous écoute dans le retour. Bonne soirée, mesdames, messieurs.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en octobre, les prix rougissent. On t'offre encore 15% de rabais sur nos Ram 1500 2024 et aussi 5% sur nos nouveaux 2025. Aussi, 18 000 $ de rabais sur nos Grand Cherokee 4XE 2023 et 16 000 $ sur nos Dodge Hornet hybride branchable 2024. Pour finir, t'as aussi 10% sur les Wrangler 4XE. En octobre, les prix rougissent chez...
L'Étoile Dodge Chrysler!